Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, ici, au studio de Transistor, à nouveau une émission autre moment. D'abord une chronique du dernier David Fincher, The Killer, sur Netflix, par Nathan, puis une discussion entre Eva et Lucie autour de la Vénus d'Argent, avant que Thomas, Nathan à nouveau et moi-même ne débattions du Napoléon dont tout le monde parle. Et bien entendu, avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils. Bienvenue donc pour ce nouvel et riche épisode du Comptoir du Cinéma et penchons-nous sans plus attendre sur The Killer, dernière réalisation de David Fincher pour Netflix dont Nathan, tu voulais nous parler.
Oui, merci beaucoup. Alors donc le 10 novembre dernier est sorti sur Netflix The Killer, le nouveau film de David Fincher. Alors un film de David Fincher, qu'on soit sensible et qu'on adhère ou non à son style, c'est malgré tout toujours un événement. Lui qui semble donc, depuis Gone Girl, sorti sur les écrans en 2014, avoir définitivement tourné le dos aux salles de cinéma et entamé une collaboration avec la plateforme de streaming pour laquelle il avait déjà réalisé l'ambitieux mais fastidieux Mank, son dernier film en date, en 2020. Et la dernière pièce ajoutée à l'édifice de sa filmographie déjà culte à de nombreux aspects, ce Killer donc, semble d'ailleurs être le négatif de la fresque qu'était Mank, qui était le projet d'une vie pharaonique que Fincher cherchait à réaliser depuis l'écriture du script dès les années 90 et auquel il s'était dévoué corps et âme. Et ici, au contraire, on a un peu l'impression que Fincher s'en fout et qu'il a, au contraire, un peu bâclé ce nouveau film. Je m'explique. Donc, The Killer donc, est adapté d'une série de bandes dessinées françaises, Cocorico, Le Tueur, référence incontournable de la bande dessinée contemporaine, débutée en 2000 par Mats et Luc Jacquemont. J'ai sans doute écorché leur nom, mais voilà, je fais de mon mieux. Cette série qui raconte l'histoire d'un tueur, pas de surprise de ce côté-là, un tueur à gages qui, au début du film, doit exécuter un contrat à Paris selon son mode d'action habituel, méthodique, froid, minutieux. Mais coup de théâtre, il manque son coup pour la première fois de sa carrière. Alors c'est pas un spoil, hein, ça se passe pendant les 15 excellentes premières minutes du film, et ça sert de point de départ à la véritable intrigue du film, puisque, en guise de réparation, les signataires du contrat, dont il ne connaît évidemment pas l'identité, saccagent sa maison de République dominicaine et agressent surtout très sauvagement sa compagne. Alors petite parenthèse, même si je pense pas que ce soit nécessaire de préciser, mais dans le doute, ne faites pas ça, hein, quand quelqu'un ou quelqu'une manque à une promesse qu'il ou elle vous a faite. La violence ne résout jamais rien, et ça notre killer l'a très bien compris, puisqu'il va tout bonnement entreprendre une vendetta personnelle, menant l'enquête à travers les États-Unis pour remonter jusqu'aux agresseurs et enfin aux commanditaires de l'opération et les tuer. Spirale de violence, donc, que le film s'emploie à retracer avec la même procédure méthodique et froide que son protagoniste. Et je dois dire que le début du film est plus que prometteur. La séquence d'ouverture, à Paris donc, si elle n'échappe pas à l'écueil hollywoodien quasi systématique de scènes de course-poursuite où un motard passe du Panthéon à la gare de Lyon d'un plan à l'autre, est néanmoins pleinement maîtrisée, extrêmement efficace. Fincher sait ce qu'il fait, ça c'est pas une surprise. Et le montage est d'une netteté et d'une minutie virtuose, le tout rythmé également par la voix off quasi hypnotique de Michael Fassbender, et aussi par des chansons des Smiths qui composent toute la bande originale du film. Que demande le peuple, d'autant que le travail sur le son est identique à celui sur l'image, méthodique, précis. Je pense par exemple au travail sur les transitions brusques qui accompagnent les changements de focalisation. C'est-à-dire que quand la caméra filme le tueur en train d'écouter de la musique avec ses écouteurs, le son est diégétique et donc étouffé par les écouteurs. Et il devient extra-diégétique et un volume normal lorsque l'on passe en caméra subjective à travers la lunette de son sniper. Tous ces allers-retours fonctionnent très bien, donnent du rythme à un film qui n'en manque pas vraiment, au moins pendant sa première heure, et cela contribue également à faire monter la tension. De manière générale, le film est techniquement vraiment bluffant, la mise en scène est au cordeau, le montage est millimétré, la précision méthodique du metteur en scène assez doué, on peut le dire, qu'est Fincher, ne déçoit pas et enthousiasme même dans une première moitié du film captivante. Mais, car il y a un mais, le problème, car il y a malheureusement un problème, c'est que si j'insiste tant sur la séquence introductive, sur la première heure dynamique du film et sur sa montée en tension très efficace, c'est que The Killer, bah, c'est un peu un pétard mouillé, en fait. Ça m'a fait l'effet d'un soufflé au fromage qu'on sort du four et qui, après avoir gonflé, s'affaisse tout à fait et échoue au moment où la tension que le film installe depuis plus d'une heure devrait atteindre son paroxysme. Le film stagne, tourne en rond, ses effets et ses mécaniques s'usent faute de se renouveler, la monotonie froide de Fassbender finit par devenir fade et par exaspérer, l'utilisation systématique des quelques secondes les plus reconnaissables de chacun des morceaux les plus connus des Smiths lasse, donnant l'impression que Fincher a tout bonnement cherché à cocher toutes les cases de sa playlist best-of du groupe, et puis plus grave que tout ça sans doute, on finit par avoir compris l'idée globale et par s'ennuyer. Je dirais en fait que jusqu'à la scène chez l'avocat, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez normalement de quoi je parle, la tension monte de manière très efficace, les gimmicks de réalisation et de mise en scène fonctionnent, la structure prend et le tout enfle de manière très prenante, et puis le soufflet se dégonfle complètement, et à partir de cette scène, on suit simplement le road trip américain de Fassbender, et malgré l'efficacité des quelques scènes d'action qui subsistent dans la deuxième partie du film, on se désintéresse assez rapidement des différentes étapes de son voyage morbide et des enjeux de l'intrigue. Avec comme frustration majeure, et je vais m'attarder un moment sur ce point parce que je m'en remets pas, la scène avec Tilda Swinton, puisque oui, Tilda Swinton joue dans le film, et elle incarne elle aussi une tueuse à gages, celle qui a agressé la compagne du protagoniste et que le tueur retrouve dans un restaurant avant de lui faire très vite comprendre qu'il entend l'éliminer. Donc Tilda Swinton qui a 5 minutes à l'écran à tout casser, mais enfin bon, ça n'a jamais empêché de grands actrices de briller. Et pourtant, alors que cette scène avait tout, un excellent acteur, une excellente actrice, le contexte, les thèmes pour relancer la tension, pour faire office de climax et même ouvrir le film sur une dimension psychologique plus profonde du personnage principal, voire même philosophique sur sa profession... Alors on est à la radio donc ça se voit pas mais j'ai fait des gros guillemets avec mes doigts et même sur le sens de la vie je sais pas et bah pas du tout, ça prend absolument pas. Fassbender patauge dans le cruel manque de réplique de son personnage dans cette séquence car si la voix off subjective et son regard froid suffisaient à faire tenir le film jusqu'alors, ici on a cruellement besoin d'un renouveau, d'un dépassement, d'une progression, d'une nouvelle stimulation quoi, et si cette scène était l'occasion parfaite de le faire, bah le personnage n'en aura finalement jamais vraiment aucune jusqu'à la fin du film. Et Tilda Swinton, quant à elle, toute magnétique qu'elle soit, s'enlise dans des dialogues qui sonnent tristement creux. On en arrive quand même à un point où le film consacre 5 bonnes minutes au récit de la blague éculée du chasseur et de l'ours. Alors si vous ne connaissez pas la blague en question, tant mieux pour vous, peut-être que cette acmé, guillemets encore une fois, sera plus palpitante, mais ça n'en reste pas moins assez gênant à l'écran. La scène n'a en conclusion aucun intérêt, ne livre aucune réplique, aucun dialogue mémorable ou intéressant sur l'approche de la mort inéluctable pour le personnage de Tilda Swinton, sur leur métier, guillemets, vous avez compris l'idée, qui consiste tout de même à tuer des gens, enfin bref, ça aurait été intéressant, et en réalité cette séquence que j'attendais avec impatience manque complètement le tir. Bref, cette scène se termine enfin sur un pseudo micro-twist assez insignifiant et outrageusement prévisible. Il nous reste donc un bon quart d'heure de film, et c'est reparti pour une litanie du tueur qui commence sérieusement à me taper sur le système, pour un nouveau riff entraînant quoique célébrissime des Smiths, et pour l'ultime étape du film, qui réussit l'exploit de me faire me dire à la fois « c'est pas trop tôt » en même temps que « déjà, mais il s'est rien passé ». Et puis c'est surtout parti pour l'ultime déception du film, à savoir son dénouement, que je ne me permettrai pas de divulgâcher ici, mais qui m'a sérieusement fait me demander s'il ne s'agissait pas d'un canular, ou si Fincher n'avait pas eu à composer avec de soudaines coupes budgétaires, des limites de durée, un burn-out, ou plus simplement une flemme subite, tant ce final est inoffensif et indifférent. Et le film de se conclure sur un dernier tableau des plus attendus et conformistes qui parachève son lent essoufflement et sa progressive déception, c'est-à-dire qu'après le dénouement, on a un fondu au noir, un écran titre avec écrit épilogue et puis un plan fixe sur Michael Fassbender qui bronze au bord de sa piscine de République dominicaine en buvant des cocktails que sa femme vient lui apporter. Enfin bref, c'est absolument insipide. Et c'est fini. Bref, je me sens trahi parce que pour conclure, The Killer est un film bizarre, frustrant, qui m'a plus que laissé sur ma faim. Franchement enthousiasmant et prometteur dans sa première impulsion, qui lui donne son élan pendant une bonne heure, avant qu'il ne s'essouffle petit à petit, stagne, végète, voire régresse et perde en tension et finalement en intérêt, et ce jusqu'à un final archi convenu, carrément décevant. Fincher semble très étrangement s'être presque désintéressé du film au fur et à mesure qu'il avançait dans sa progression, bâclant sa dernière section, ce qui est évidemment fort dommage, car je pense qu'il me restera finalement plus grand-chose de ce film dans très peu de temps, alors même qu'il avait démarré en trombe, que j'y croyais de tout mon cœur et de toute ma bonne volonté, et que j'aurais sincèrement aimé l'apprécier après les promesses de son ouverture. Bref, The Killer démarre comme un Fincher et pas un mauvais, et se conclut comme... comme un Guédiguian, tiens, et pas un bon, voilà. Donc, pour ceux que ça intrigue quand même, je vous conseille malgré tout de vous frotter à ce killer. Après tout, si vous avez un abonnement Netflix, ça ne coûte rien de tenter le coup, et le jeu en vaut peut-être malgré tout la chandelle, au moins pour cette première partie franchement réussie, ou pour la masterclass de mise en scène qui demeure ponctuellement à sauver dans ce film, et aussi parce que j'ai peut-être tout simplement moi-même raté quelque chose. J'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux des gens qui disaient qu'il fallait absolument lire le dernier numéro de Society, dans lequel un article est consacré au film et plus globalement à Fincher, et où apparemment on apprend de nouvelles grilles de lecture pour véritablement comprendre et apprécier ce film. Alors pourquoi pas, tentez votre chance et peut-être serez-vous digne du privilège d'une connivence avec David Fincher, qui vaut manifestement tellement mieux que nous tous, ou en tout cas que moi qui n'ai pas du tout accroché à son film.
Merci beaucoup Nathan pour cette excellente chronique. Donc, The Killer, c'est sur Netflix, et pour qui souhaiterait s'y aventurer, c'est disponible depuis le 10 novembre.